Vous êtes sur RTL. 30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, 2 débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une, la polémique après l'interpellation d'un réfugié afghan, le Covid et la Haute Autorité de Santé qui donne son feu vert à une troisième dose de vaccin. Et puis on parlera des Jeux Paralympiques, ça commence aujourd'hui à Tokyo dans moins d'une demi-heure.
Et tous les jours désormais vers 12h40, après le journal de débat. Le premier, peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? Et puis la météo, on n'a jamais vu ça. C'est la phrase qu'on a entendue beaucoup dans l'Ouest. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, cette phrase?
En attendant le programme du jour, programme météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Et cette fois c'est du soleil pour presque tout le monde.
Oui, en effet presque, parce qu'on attend des orages cet après-midi sur les Pyrénées, la région PACA ça commence déjà, et sur le relief Corse. Ailleurs du soleil, des températures en hausse, deux saisons et ça fait du bien. Une moyenne de 23-24 au nord, 27-28 dans le sud-ouest et jusqu'à 30 dans le sud-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette interpellation qui fait polémique. L'un des 5 Afghans placés sous surveillance après avoir été rapatrié en France a été interpellé hier. Il est toujours en garde à vue ce midi. Bonjour Thomas Proto.
Bonjour.
Cet homme a visiblement voulu se soustraire aux obligations qui étaient les siennes.
En effet, le jeune homme afghan a quitté hier après-midi son hôtel de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, où il réside depuis son arrivée en France le 18 août. Il n'en avait pas le droit, d'abord parce qu'il est soumis à une quarantaine Covid depuis son atterrissage, mais surtout parce qu'il est visé ce qu'on appelle une MICAS, c'est-à-dire une assignation à résidence sous la surveillance des services antiterroristes. La mesure, vous l'avez dit, a été appliquée samedi à 5 Afghans exfiltrés par la France, que l'on soupçonne de lien avec les talibans. Ce sont des vérifications. Hein. L'homme n'a pas respecté la mesure et s'est rendu à Paris, suivi par des policiers, assure une source proche de l'enquête. Arrivé dans la capitale, il a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. On ne sait pas à ce stade quel était l'objectif de son déplacement, c'est évidemment au cœur de l'enquête. En tout cas, pour n'avoir pas respecté l'assignation à résidence, il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Cette arrestation, bien sûr, relance le débat autour de l'accueil des réfugiés. Question éminemment politique et qui divise. Écoutez Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Bon, c'est pas une défaillance de l'État, parce que c'est la preuve que nos services de renseignement bossent et ils ont réussi à identifier quelqu'un qui serait passé entre les mailles du filet. Tant mieux. En tout cas, il faut pouvoir conjuguer sécurité de la France et en même temps humanité et donc devoir d'accueil de ces milliers d'hommes et de femmes qui fuient le djihadisme, la charia, qui ont peur pour leurs enfants. Je voudrais qu'on se préoccupe plus, parce qu'on n'en parle pas assez, de ce que nous allons faire pour aider ces Afghans, ces Afghanes qui restent en Afghanistan et qui n'acceptent pas ce régime, et qui veulent avoir un avenir pour leurs enfants, qui n'acceptent pas que leur gamine de 15 ans soit demain mariée à un guerrier taliban. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ?
Fabien Roussel au micro RTL de Vincent Derosier. Alors à ce jour, ce sont 2000 personnes qui ont été évacuées par la France depuis Kaboul. Des opérations qui s'arrêteront dès jeudi si les États-Unis maintiennent la date du 31 août pour leur retrait. C'est ce qu'indique ce matin un haut diplomate français. En attendant, un avion en provenance d'Abu Dhabi s'est encore posé ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, 200 Afghans qui ont vécu un cauchemar ces derniers jours. Brice Dugénie a fait le voyage avec eux pour RTL.
Assis sur un lit de camp kaki dans un immense hangar de la base aérienne, le regard dans le vague, Adi, professeur à l'université de Kaboul, pense à cette visite des talibans.
Les talibans sont venus, ils ont frappé à la porte. C'est un membre de ma famille qui a ouvert, il a dit que je n'étais pas là. J'ai décidé de quitter ma maison et de fuir.
Pour lui, ça a été le déclic, partir sans se retourner, le plus vite possible, fuir pour vivre avec un tout petit bagage en main. À côté de lui, sa femme a retiré son voile. Sur le lit voisin, une autre femme insiste pour parler. Elle a quitté l'enfer de l'aéroport à temps, mais sans son mari. Soulagée d'être en vie, elle a désormais peur pour lui.
Malheureusement, j'ai dû laisser mon mari derrière moi. Il n'a pas pu venir. C'est terrible pour moi. Je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, s'il va bien. C'est terrible pour moi d'avoir abandonné mon mari.
Après les contrôles de sécurité, les militaires français apportent aux réfugiés les soins et répondent à leurs besoins avant de les faire embarquer direction Paris, premier jour d'une nouvelle vie.
Reportage signé Brice Dugénie pour RTL.
Et vers 12h40, je l'ai dit tout à l'heure, Thomas Proutot restera avec nous. Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? Vous nous pourrez nous donner sur ce sujet davantage de précisions.
Anis, un homme de 28 ans, est toujours en garde à vue après les incidents d'avant-hier lors du match face à Marseille. Il est soupçonné d'avoir voulu frapper Dimitri Payet, le joueur de l'OM. Le supporter niçois qui avait lui été évacué sur une civière est sorti de l'hôpital. C'est une info RTL. De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes annonce les premières sanctions. La fermeture pour 4 matchs des tribunes du Stade de Nice, d'une des tribunes. Les deux clubs, on le rappelle, hein, eux seront convoqués demain devant la commission de discipline de la LFP, la Ligue de football professionnelle.
Le Covid, à présent, c'est confirmé. Il faudra bien une troisième dose de vaccin.
La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Les premiers rendez-vous, d'ailleurs, pourraient être ouverts dès la semaine prochaine. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Alors, elle ne sera finalement pas pour... pas seulement, en tout cas, pour les plus fragiles, cette troisième dose.
Oui, il est prévu de généraliser cette troisième dose aux plus de 65 ans, en effet. Donc, pas seulement aux résidents d'EHPAD ou aux plus de 80 ans à domicile, comme ça avait été envisagé. Les personnes fragiles dont le système immunitaire est affaibli, hein, quel que soit leur âge, sont également concernées. En tout, ça fait plus de 13 millions de personnes. Cette dose de rappel sera bien sûr gratuite. Hier soir, Olivier Véran a annoncé les premières injections dès le 15 septembre. La Haute Autorité de Santé propose, elle, de faire simple et de faire ce rappel à partir de fin octobre, en même temps que le vaccin anti-grippe, le même jour, mais pas dans la même seringue. Mais il faudra l'accord de l'Agence européenne du médicament.
Et cette troisième dose, Sophie, on la fait quand? Combien de temps après la deuxième dose?
Elle doit se faire au moins 6 mois après la deuxième dose, si vous avez eu 2 injections, ou après la première, si vous avez eu le Covid et donc n'avez donc reçu qu'une seule dose. Cas particulier, attention, pour les personnes ayant reçu le vaccin unidose Janssen, la Haute Autorité de Santé préconise un rappel avec du Pfizer ou du Moderna 4 semaines seulement après leur injection, car on manque de données sur l'efficacité à long terme de ce vaccin face au variant Delta.
Merci beaucoup Sophie. Donc si vous avez eu ce vaccin Janssen, hein, vous le disiez, une deuxième dose finalement. Sophie Jousselin, cette vaccination elle s'accélère en Guadeloupe, plus de 500 injections quotidiennes, hein, depuis plusieurs jours, mais on est encore bien loin du compte puisque seuls 20% des Guadeloupéens sont aujourd'hui complètement vaccinés. Ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, n'a pas exclu un report de la rentrée scolaire là-bas et en Martinique. C'est ce que réclament les élus locaux. La question pourrait être tranchée demain en Conseil de défense. Une rentrée qui inquiète aussi en métropole. Le SNUIPP, premier syndicat du primaire, réclame ce matin un protocole plus strict.
Pour nous, le niveau 2 du protocole n'est pas suffisant. Il aurait fallu être sur un niveau plus élevé. Il faut renforcer, par exemple, l'angle mort des cantines. Puis, il faut se poser la question d'une adaptation du niveau de protocole, parce qu'on ne peut pas adopter le même protocole partout en France. On a une circulation du virus qui est différente. Alors, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est que la question du masque en extérieur soit réétudiée, parce qu'on a des endroits où le virus circule plus, et on sait que nos enfants, nos élèves qui sont en classe, qui sortent en récréation, enfin, vont se rapprocher, vont fonctionner par groupe, par grappe. On a des cours de récréation où on a beaucoup d'élèves et donc il faut qu'on puisse avoir ce moment où les élèves ne diffusent pas le virus et on craint sur ces règles de circulation du virus dans les cours de récréation.
Guylaine David, la porte-parole du SNUIPP avec Marie Guerrier pour RTL. Le chiffre du jour, 1,15 milliard d'euros. C'est la somme que les Français ont placée sur leur livret A au mois de juillet. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Plus d'un milliard d'euros, c'est énorme, c'est toujours l'effet Covid?
Ben oui, les Français continuent à mettre de l'argent de côté. On sait déjà que 2021 sera une année record en termes d'épargne puisqu'on a placé 22 milliards depuis janvier, c'est-à-dire qu'on a déjà mis plus d'argent de côté en 7 mois que sur toute l'année 2019, ah oui, qui était la dernière année à peu près normale, hein. Pourtant, le taux de rémunération, c'est toujours le plus bas de l'histoire du livret, 0,5%. Alors ça veut dire quoi? Eh ben, que les Français continuent à mettre de l'argent de côté tant que l'horizon n'est pas totalement dégagé au niveau économique. On est raisonnable dans les dépenses, et d'ailleurs on l'a vu avec les soldes qui étaient assez décevants cet été. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on est prêt à reconsommer très vite, et c'est pour ça qu'on laisse son argent sur le livret A. On peut aller chercher ses économies en un clin d'œil. On l'a vu en juin avec le déconfinement et la réouverture des cafés-restaurants. Là, on a pioché dans le livret A pour se faire plaisir et pour réserver les vacances. Donc on devrait puiser aussi dans les économies à la rentrée scolaire l'hiver et puis ensuite à Noël. Et tout ça, c'est très bon pour nourrir une reprise et une croissance soutenue.
Martial You, chef du service économie de RTL.
Et puis, c'est aujourd'hui le coup d'envoi des Jeux paralympiques à Tokyo.
La cérémonie d'ouverture dans moins d'une demi-heure à partir de 13h. 4400 athlètes de 163 pays et parmi eux, il y a 138 Français. Comme chez les valides, deux porte-drapeaux. Un homme, Stéphane Oudé, double champion olympique de tennis fauteuil. Et puis une femme, Sandrine Martinet, judoka, championne olympique à Rio en 2016. Pour elle, ce sont ses cinquièmes Jeux paralympiques.
C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un immense honneur, une grande fierté. On va essayer d'être des capitaines, de pouvoir emmener chaque athlète, lui apporter ce petit plus qui va faire que, voilà, ils vont aller performer le jour J et qu'ils vont sentir derrière eux toute une équipe, toute une nation et qu'on est voilà, une équipe unie et forte. On va se servir de toute cette belle énergie pour essayer de la transmettre, voilà, l'énergie, la joie, l'envie, le plaisir à toute l'équipe pour que chacun puisse aller chercher le plus beau des résultats.
Sandrine Martin est l'un des deux porte-drapeaux français au micro RTL d'Isabelle Langer, les Jeux paralympiques à partir d'aujourd'hui. Donc, et ce sera jusqu'au 5 septembre, Pascal.
Et on va se retrouver dans une seconde après ce journal. Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? C'est notre premier débat. Et puis la météo, vous avez peut-être entendu cette phrase autour de vous. On n'a jamais vu ça, notamment dans l'Ouest. Et bien, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, cette phrase? À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Et premier débat d'RTL Midi, cette question, peut-on, la France peut-elle accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? Question qui se pose, Pascal, après l'interpellation d'un des cinq Afghans qui avait été placé sous surveillance après avoir été rapatrié en France.
Et on a déjà envie de répondre par la négative après ce qui s'est passé. Alors Thomas Proutot, on apprend donc hier soir que cinq Afghans sont placés sous surveillance et on apprend ce matin que celui qui devait rester isolé à l'hôtel à Noisy et dans Paris. Donc la première question que je me pose dans ces cas-là, il n'y avait personne devant son hôtel ou devant sa porte?
Alors on nous affirme que si et qu'il a été suivi et consciemment par des policiers et interpellé à un moment donné, on ne sait pas encore pourquoi. Il n'a pas été laissé seul dans la nature, c'est ce qu'on nous dit ce matin, ça demande à être vérifié et confirmé. Il n'était pas seul dans le RER pour partir à Paris. Information sur laquelle on travaille.
On va faire un peu de pédagogie avec vous, Thomas Proutot. Quel est le dispositif en place, les contrôles qui existent pour ces réfugiés?
Alors, il y a trois étapes, trois grandes étapes, on va dire. Évidemment, au début, c'est à Kaboul, au moment d'embarquer les candidats à l'exil. L'ambassade de France, le Quai d'Orsay, les services ont des listes de ressortissants afghans. Évidemment, ceux qui ont travaillé directement pour la France, ça, c'est le plus simple. D'autres qui sont recommandés par des personnes de confiance, ça fonctionne assez bien. Et puis, d'autres qui se sont présentés à l'aéroport ou qui font partie de ces gens de ce cercle très vaste d'amis de la France, comme on les a nommés. Voilà, alors là, une première vérification est faite dans le chaos que vous connaissez sur la base des documents disponibles. Ils embarquent. Là, il y a ces listes. Les listes tournent, comme on dit, les services de renseignement moulinent avec leurs partenaires, notamment américains, pour voir si parmi tous ces noms qu'ils ont, il y a quelqu'un qui sonne. Ça n'est pas encore arrivé. Deuxième étape, Abu Dhabi, le hub, les services de renseignement français sont présents avec des officiers de l'asile qui sont prêts éventuellement à filtrer. Nouvel interrogatoire au cas où, ça n'a pas encore été le cas jusqu'ici. Et enfin, parce qu'il faut aussi aller très vite, hein, 24 heures, 36 heures à Abu Dhabi, il faut repartir. Et enfin, Roissy, avec une dernière étape, là encore, des policiers du renseignement et des personnels pour vérifier les gens qui posent éventuellement problème.
Alors, dans le cas de celui qui nous intéresse, celui qui est en garde à vue?
Alors, dans ce cas-là, c'est très spécifique parce que vous savez qu'il a aidé à l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, cette fameuse évacuation. En fait, il s'est présenté en disant, je peux vous aider avec sa famille, des proches, je vous aide et vous m'embarquez. Ce qui a été fait, il a vraiment aidé, ça c'est ce qu'on nous dit véritablement, sans lui peut-être que l'évacuation n'aurait pas été possible, et il est monté dans l'avion, tout de suite il y aurait eu une alerte, deux sources, certaines nous disent il a été bloqué à Abu Dhabi, d'autres non, il a pu arriver jusqu'à Paris, et à ce moment-là, d'autres Afghans ont alerté notamment pour dire, mais cet homme était devant l'Afghanistan, l'ambassade, avec une Kalachnikov, on l'a vu, il fait partie des talibans.
Voilà. Moi, j'ai entendu des informations contradictoires. Cet homme qui était dans Paris n'était pas celui, entre guillemets, qui était le plus dangereux des cinq.
Alors,
Afghans.
En tout cas, celui dont on parle juste avant, celui qui a été reconnu, qui a admis avoir fait partie des talibans armés.
C'est pas celui-là qui était dans Paris.
Non, c'est un de ses proches qui, par précaution, a été lui aussi assigné à résidence.
Donc, on peut imaginer que celui qui était le plus dangereux, qui aurait aidé les Français à Kaboul, aurait dit... prenez-moi avec ma famille, par exemple 3 ou 4 personnes.
Ah, c'est ce qu'il a dit, on le
c'est
sait.
Ce qu'il a dit.
Oui, bien sûr, c'est un cercle de proches. D'ailleurs, il y a sa femme et ses enfants qui, eux, ne sont pas placés sous assignation.
Et en revanche, ce qu'on a du mal, nous, à savoir précisément, c'est en quoi a-t-il rendu des services à la France ?
Eh bien, en aidant à cette évacuation, donc ouais, très concrètement...
Mais ça, c'est assez flou.
Flou et ça le restera, puisque cette évacuation est placée sous le sceau du secret. Mais on a eu ici la chance de recevoir le chef du RAID, le patron du RAID, qui a quand même raconté sur RTL une partie de cette évacuation. Et il semblerait que cet homme ait aidé tout simplement à passer les checkpoints la nuit dans Kaboul, dans les 5 kilomètres qui ont permis d'aller à l'aéroport. C'est le rôle que l'on comprend qu'il a eu et qui est donc décrit comme extrêmement important, ce qui a fait qu'on l'a embarqué. Donc, on est quand même dans un cas très particulier. Vous voyez, comme on le décrit, on n'est pas sur un terroriste déguisé qui serait rentré dans l'avion que personne n'aurait vu. Ça n'est pas du tout le schéma. Et à ce stade, l'intérieur affirme qu'avec ce dispositif, c'est quasiment impossible. Ça n'a aucun sens.
Alors, le sujet est éminemment politique. Qui plus est, bien sûr, à quelques mois de la présidentielle. Écoutez, Éric Diard, il est député Les Républicains des Bouches-du-Rhône et il était tout à l'heure l'invité des Petits Matins d'RTL avec Jérôme Florin.
Moi, je pense qu'il faut accueillir nos ressortissants français et les ressortissants afghans qui ont effectivement coopérer avec la France et ses alliés face aux talibans. Et point barre. Parce que sinon, évidemment, les talibans vont vous envoyer des personnes infiltrées et ces personnes infiltrées passeront à l'acte. L'histoire se répétera.
L'histoire se répétera, c'est l'inquiétude en tout cas de certains, à commencer donc par Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Pierre Humeric, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Qu'est-ce que vous répondez ce midi à Éric Diard ?
Je réponds que naturellement, il faut être très vigilant. Le droit d'asile, c'est pas le droit de permettre à des terroristes de profiter de l'accueil pour s'infiltrer. Naturellement, il faut être extrêmement extrêmement vigilant. Mais en même temps, il faut pas se servir de ça pour dire le droit d'asile n'est pas prioritaire. Oui, actuellement, vu la situation en Afghanistan, notre souci doit être d'accueillir les familles, les personnes qui sont actuellement menacées et qui sont en danger. C'est comme ça qu'on a opéré, nous, à Bordeaux. Vous savez, pour vous donner un peu la genèse de mon intervention, moi, j'ai été au départ sollicité dès le 17 août par des chefs d'entreprise bordelais, des particuliers, des associations bordelaises qui m'ont signalé des familles, enfin des chefs de famille en l'occurrence, avec lesquels ils avaient eu des contacts, avec lesquels ils avaient travaillé. Donc c'est des gens sûrs. Donc si vous voulez, ce sont ces familles-là que j'ai souhaité, que j'ai demandé à accueillir à Bordeaux, tout en travaillant avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères via une procédure très très précise. Donc nous sommes intervenus sur des familles connues qui seront accueillies ici parce qu'elles ont des liens avec la ville de Bordeaux. Donc si vous voulez, cela n'est totalement déconnecté de tout risque d'infiltration terroriste sur notre territoire.
Pierre Humeric, le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, est-ce que vous savez le nombre d'Afghans qui rejoindront la ville de Bordeaux ?
Non, c'est difficile à savoir. Alors, actuellement, je crois que la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a à peu près 6500 personnes qui souhaitent venir en France. C'est pour ça que nous avons souhaité aussi, je dis en tant que maire écologiste, que ce soit traité aussi globalement entre toutes les mairies écologistes pour établir ce qu'on appelle une liste consolidée adressée à l'ambassade afin de suivre les rapatriements plus facilement. C'est une élue parisienne du 18e, Léa Ballage, qui supervise cette coordination entre tous les maires écologistes. Mais nous, ce que nous avons fait concrètement à Bordeaux, c'est que, à la demande de l'État, nous avons mis à la disposition des locaux. À Bordeaux, nous avons mis à disposition notre auberge de jeunesse pour un mois. C'est une auberge de jeunesse qui offre 106 places d'accueil. Mais pour accueillir des personnes, je dirais, un peu en sas d'arrivée, c'est-à-dire que ces personnes-là vont arriver vraisemblablement dès demain. Il faut qu'elles aient un accueil, donc nous on dit on est prêt à constituer.
Il faut qu'elles aient un avenir, peut-être, forcément. Vous y pensez ? Que vont faire ces gens une fois qu'ils seront sur le sol de Bordeaux ?
Il faut qu'ils demandent. Mais pour être accueilli, il faut d'abord qu'ils répondent à une procédure de droit d'asile. Il y a une procédure de droit d'asile. Ils n'ont pas tous vocation à être accueillis à Bordeaux. Nous sommes dans l'urgence. C'est bien d'accueillir des gens, de les faire monter dans les avions. à Kaboul pour les amener en France. Mais après, il faut leur trouver dans l'immédiat une terre d'accueil. Mais provisoirement, donc, nous avons dit, comme d'autres maires. Hein. D'ailleurs, je note qu'à Bordeaux, c'est pas que les maires écologistes, c'est les 28 maires de la métropole bordelaise qui se sont engagés pour l'accueil des ressortissants afghans. Donc déjà, c'est une charge qui ne pèse pas que sur la ville, qui pèse sur l'ensemble des maires, toutes tendances politiques confondues. Je tiens à l'indiquer. Mais donc, concrètement, nous, on est prêt à accueillir dans l'immédiat, à très court terme et très provisoirement, 106, ils n'ont pas tous
106, c'est bien, je retiens, et nous resterons sur ce chiffre de 106, effectivement, pour la ville de Bordeaux. Et je vous remercie beaucoup, monsieur Urmic, maire de Bordeaux. C'était la fin de ce premier débat. On va se retrouver dans une seconde en parlant de la météo. C'est un sujet à la fois plus léger, mais qui fait causer, avec notamment cette phrase que j'ai entendue beaucoup dans l'Ouest. On n'a jamais vu ça. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le soleil a si peu brillé cette année qu'il faille dire on n'a jamais vu ça? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je veux du soleil, vous êtes sans doute nombreux, très nombreux même, à avoir fredonné cette terre. Il faut dire que le soleil, on en a souvent manqué cet été, la preuve.
Ça reste gris, ça reste humide. Ouais.
Alors,
toujours.
C'est effrayant, la carte d'aujourd'hui, elle est horrible.
Bah, en fait, on a eu trois fois autant de pluie que dans un mois normal.
De très gros orages avec parfois de la grêle et de brusques rafales de vent.
Il fait plutôt moche.
Tristan Ham, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Bonjour. Vous êtes prévisionniste à Météo France. Alors, on vient d'entendre cette petite fille qui disait plutôt moche. Est-ce qu'il a fait plus moche que d'habitude?
Alors déjà, la semaine dernière, c'est vrai qu'on est un peu resté dans cette lignée assez maussade et légèrement fraîche qu'on a pu observer sur la majorité de l'été en France. Mais là, on est dans une période de transition avec un anticyclone situé au niveau des îles Britanniques qui va assécher la masse d'air progressivement sur notre pays. Et déjà aujourd'hui, je pense que la plupart des Français peuvent observer de très belles éclaircies un peu partout en France.
Bah, c'est sympathique parce que vous êtes optimiste, mais pour beaucoup de Français, l'été est déjà terminé, ils sont rentrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a réellement eu moins de soleil qu'en moyenne? Alors ça, c'est sans doute vrai, mais est-ce qu'il y a eu si peu de soleil que ça va rentrer dans les annales de la météo? Je parle dans l'Ouest et au nord de la France, disons entre le 15 juillet et le 15 août.
Alors non, au niveau des valeurs d'ensoleillement, c'est vrai qu'on est un peu déficitaire, hein, on peut atteindre jusqu'à 20% de déficit. Mais rien de quoi affoler les records d'ensoleillement pour cette période.
Et c'est 20% ça qui est fou, moins alors. Quand même, c'est pas anodin.
Non, c'est sûr, oui, c'est vrai que ça fait 20% de déficit, mais...
20% de moins dans le nord, hein, on est d'accord.
Oui, oui, enfin, au niveau, dans la France, on peut atteindre jusqu'à 20% entre le centre-est et les régions de l'ouest.
Mais alors, comment vous expliquez ce sentiment beaucoup ont, et notamment ceux qui ont passé des vacances dans l'ouest, en Normandie, que jamais ils ont vu si peu de soleil?
Alors, c'est vrai que cette impression, ce n'est pas qu'une impression. On a eu beaucoup de nuages qui ont circulé sur le pays, c'est un fait. Après, on a aussi eu, si on veut relativiser, trois derniers étés qui ont été particulièrement secs, chauds et ensoleillés. Donc je pense que d'un point de vue subjectif...
Ah oui, c'est de la faute de trois public... derniers étés. C'est qu'il a fait trop beau et maintenant on paye.
En termes de température, Tristan Ham, on s'est quand même pas mal couvert quand on était dans la moitié nord.
Oui.
Ça, c'est renouvelé.
Alors, au niveau... pour le mois de juin, hein, il faut savoir que ça a été un mois qui était en moyenne... chaud au niveau national. Pour ce qui est du mois de juillet, en effet, pour les températures
c'était
maximales...
C'était chaud en juin ?
Oui, mais, en moyenne, oui.
J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu le même mois de juin. Parce qu'à Paris, c'était pas particulièrement chaud. Mais c'est intéressant de parler avec vous, parce que peut-être que nos impressions, manifestement,
oui,
ne sont pas les bonnes.
Bah, je pense qu'on peut se souvenir du pic de chaleur au niveau de mi-fin juin où on a observé des températures autour des 35 degrés un peu partout dans la France. Mmh. Mais pour ce qui est du mois de juillet, c'est vrai que ça a été légèrement frais pour les températures de l'après-midi, à peu près 1 à 3 degrés en dessous des normales de saison.
Et je vous parle pas du soir, hein, parce que le soir, 16 degrés, vous oubliez le petit polo et la petite jupe, hein.
Après, 16 degrés, c'est plutôt proche des normales de saison sur la plupart des régions.
Le soir?
C'est ce qu'on peut Oui, oui, quand ça descend, les minimales qui atteignent au niveau...
Vous avez été mal habitué, Pascal.
Vous nous avez bien remonté le moral, et monsieur Hamm.
Juste une toute dernière question. On peut s'attendre à un été indien ou on ne peut pas le dire?
Je saurais... Pour ce qui est de l'été indien, là, pour l'instant, on a des températures qui vont rester plutôt proches des normales de saison et plutôt des journées là qui vont plutôt être sèches et ensoleillées jusqu'à fin août.
Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, monsieur Hamm. On peut être sûr de l'été indien, en tout cas avec Joe Dassin. C'est déjà quelque chose. On peut l'entendre, Damien Bachir. Je suis sûr qu'il va pouvoir nous trouver avant la fin des auditeurs cette chanson. Merci, monsieur Hamm.
Merci.
Et puis, moi, je retiens de ce que vous dites, c'est que statistiquement, il n'y a rien à signaler.
Pas si grave que ça.
Oui, pas si grave. Mais bon, ceux qui n'ont pas vu le soleil, c'est dans leur tête. Il était présent. Il est 12h58. On va marquer une pause et ça sera le rappel des titres. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? C'est l'une des questions du jour. On est avec Marc. Bonjour. Que répondez-vous?